Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Dimanche dernier, je vous ai emmené, rappelez-vous, de 212 au 5e siècle de Caracalla à Théodoric. Aujourd'hui, nous allons un peu avancer dans le temps, dans une époque qui nous est plus proche, peut-être probablement plus familière, puisqu'il s'agit de la Révolution française, 1789, de cette époque de la terreur, une époque difficile, où les événements furent terribles, mais une époque qui nous parle plus, qui nous est certainement plus familière, parce qu'on va dire que ça n'est même pas avant-hier, c'est hier. Certes, on le disait avec l'auteur en rentelle, les mentalités ont changé, mais finalement, le déroulement des choses, on peut s'y retrouver, on peut s'y reconnaître. Alors, pour un livre fort intéressant, pour deux destins, je dirais, croisés ou parallèles, de Thérésia Tallien et Maximilien de Robespierre. Et oui, deux destins qui, quelque part, vont se confondre, vont se rencontrer, vont se cogner l'un à l'autre dans une époque, disais-je, difficile. Pour nous parler de ce moment, de ces deux personnages qui ont façonné, qui sont vraiment des images, des visages de cette époque, eh bien, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Thérèse Charles Valin. Bonjour.
Bonjour, je suis ravie de participer à cette émission.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour ces deux ailes, pour Délivrez-vous, donc pour votre livre Thérésia Tallien, Maximilien de Robespierre, aux éditions de la... Alors, je ne sais jamais si vous dire de la Bisquine ou de la Biquine. À chaque fois, c'est mon...
Il semblerait que ce soit la Bisquine, puisque c'est le nom du bateau qui illustre la maison d'édition.
Tout à fait. Voilà. Alors, on va dire de la Bisquine. Voilà. Alors, tout d'abord, qui est Thérèse Charles Valin? Parlez-nous un petit peu de vous.
Oh, c'est toujours difficile de parler de soi. Simplement, je suis historienne, je suis docteur en histoire et en sciences politiques, et j'ai... Depuis toute petite, je vis dans l'histoire parce que j'ai eu des ancêtres qui ont été très connus. Ainsi, Madame Tallien, qui a épousé Madame Tallien, qui est née Cabarrus et qui a épousé le conventionnel Tallien, et ils ont eu une fille, Thermidor, bien entendu, puisque c'était leur jour de gloire. Ils l'ont appelée Thermidor.
Oui.
Et j'en descends en ligne directe. Et dans ma famille, on a conservé précieusement toutes les archives concernant cette époque. Et ce qui fait que je pouvais que m'intéresser à l'histoire avec un grand H.
Alors, voilà. D'où le choix de votre prénom?
D'où le choix de mon prénom. Toutes les filles depuis Thérésia, même Thermidor, c'est son deuxième prénom, se sont appelées Thérèse.
D'accord.
Voilà.
Alors, pourquoi ce choix de ces deux destins, j'ai envie de dire croisés, parallèles, de Thérésia Tallien, de Maximilien de Robespierre? Donc, bien sûr, Maximilien de Robespierre est né à Arras, il avait des études d'avocat, il va devenir député jacobin, député de la Terreur. Et alors, parallèlement à ça, ce qui est quand même incroyable, c'est que... Alors, Thérésia Tallien, c'est une femme résolument moderne. Elle va divorcer, c'est une époque quand même assez particulière. Elle va partir à Bordeaux, elle va prendre un amant qui va devenir ensuite son époux. Et alors cet époux signera l'ordre d'exécution de Maximilien de Robespierre. Donc ce sont vraiment deux destins, deux histoires assez ordinaires, extraordinaires, et surtout d'une femme résolument moderne aussi pour cette époque. Donc pourquoi avoir choisi ces deux personnages différents et emblématiques?
Bien, l'idée des vies parallèles m'a toujours beaucoup intéressée.
Oui.
J'ai déjà écrit un livre sur ce sujet, sur une autre époque.
Oui.
Mais là, j'étais particulièrement intéressée par le fait d'opposer, c'était une sorte de défi, d'opposer Robespierre, cet homme qui ne met pas les femmes et qui va mourir, le neuf Thermidor, en partie par la petite main, en partie en raison de la petite main de Thérésia Cabarrus, qui deviendra plus tard Madame Tallien. J'ai trouvé que c'était intéressant de voir la partie de la vie de Madame Tallien qui va se situer entre sa naissance et 20 ans jusqu'au neuf Thermidor, et toute la vie de Robespierre qui va se dérouler jusque-là, de voir en quoi ils se ressemblent, en quoi ils sont différents, en quoi la façon dont on me les a présentés quand j'étais petite fille, c'est-à-dire une femme qui a délivré la France de la terreur et un homme qui pouvait être comme monstre dans l'aspect qu'on m'en a décrit dans ma famille, étaient différents en réalité quand on l'étudie du point de vue de l'historienne et en les mettant en parallèle. Donc en étudiant chaque période de l'histoire de la Révolution qui mène jusqu'au Neuf Thermidor, mm-hmm. pour voir si ils ont des points communs finalement. Oui. Ils en ont beaucoup. Mm-hmm. Ce sont tous les deux des gens de l'Ancien Régime.
Oui.
Qui ont été élevés dans ces habitudes et cette. D'ailleurs, Robespierre, jusqu'à la fin, restera habillé à l'Ancien Régime.
Tout à fait.
Et mmh. aura une idée de la France. Très Ancien Régime, il sera très attaché d'abord à la monarchie, puis après, évidemment, il votera la mort du roi, mais oui. il sera très attaché à la religion, jusqu'à cette idée de la fête de l'être suprême qui va être, malheureusement pour lui, une très mauvaise idée.
Oui.
Mais. Il a ses idées d'Ancien Régime, Thérésia les a aussi. Mm-hmm. Tous les deux sont dans un monde qui s'écroule et qui veulent refaire à leur idée, avec mm-hmm. les idées de la démocratie. Thérésia parce qu'elle a un père qui a été mêlé au mouvement de l'Illustration en Espagne, c'est-à-dire le mouvement des Lumières en Espagne, au moment où l'Espagne s'est ouverte très brièvement à ce genre d'idées. Mmh. Et elle est pour le changement, elle est pour le changement, pour une société plus juste, mmh. notamment où les femmes auraient peut-être le droit de s'exprimer. Et Robespierre, de l'autre côté, est également pour l'évolution de la France vers une démocratie. Mmh. Donc à un certain moment, ils se rejoignent.
Mmh.
Évidemment, quand Robespierre va vouloir imposer la terreur, pas seul d'ailleurs, parce que c'est une décision collégiale, mais
oui.
quand il voudra imposer la terreur, il va penser que la vertu ne pourra gagner que par la terreur. Et alors là, c'est une sorte de brise, comme disaient les Grecs, trop d'orgueil par rapport à sa propre idée va tuer l'affaire.
Oui, et il va faire exécuter bon nombre de ses amis. Il va faire exécuter bon nombre de ses amis.
Il va faire exécuter bon nombre de ses amis intimes, dont Danton, Desmoulins, des gens avec qui il a été très lié.
Oui.
Et là, il devient inhumain. Mmh. Si vous voulez, ce qui oppose Thérésia à Robespierre, c'est du côté de Thérésia un grand goût pour l'humain.
Oui.
Et Robespierre, un grand goût pour la vertu qui nie l'humanité.
Oui. Alors, c'est une femme. Au-delà quand même de sa de son modernisme, c'est une femme vertueuse dans le sens où elle aime aider le prochain, elle veut faire le mieux possible et aider tout ce qui peut l'être. Je dirais que c'est une femme honorable.
C'est-à-dire qu'on a voulu la faire passer pour une femme soi-disant extrêmement portée sur l'amour et sur les hommes et en même temps une femme trop libre pour l'époque.
Oui, tout à fait.
Mais c'est une femme qui aime énormément son prochain et qui est très généreuse à la fois de son corps, si vous voulez, elle aura 11 enfants, et qui est très généreuse de tout ce qu'elle a, de ses biens personnels et de ses facilités pour pouvoir aider les gens au moment de la terreur pour sortir, partir de France ou ne pas être exécutée. Elle donnera tout ce qu'elle a. Mmh. Ce qui fait que quand elle... Après le Neuf Thermidor, elle sera absolument sans rien et il faudra qu'elle reconstitue un petit peu une fortune et c'est ce qui l'entraînera à des aventures suivantes.
Mmh. Alors elle est morte bien après Robespierre, parce
qu'elle
est morte en 1835.
Oui, tout à fait.
Et donc pour l'époque c'était bien de vivre bien plus longtemps.
Oui. Mais elle est morte princesse de Chimay, donc et c'était son dernier époux était le prince de Chimay et elle est morte tard, donc elle a eu une vie très longue pour l'époque et elle a continué à s'occuper des gens et à être très humaine. Mais sa vraie vie, sa vie de femme politique, si vous voulez, entre guillemets, ça a été entre ses 20 ans et deux ans, quoi, entre 18 et 20 ans.
Entre 18 et 20 ans.
C'est-à-dire l'époque de la terreur, en gros.
Mais alors, justement, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que finalement, cette femme, on a l'impression libérée de tout, mais en même temps attachée à des valeurs, à des us et coutumes, à des traditions et à un ancien régime. Moi, je l'ai trouvée terriblement moderne et je me suis dit, c'est quelqu'un qu'on pourrait aujourd'hui rencontrer, côtoyer, avec qui débattre et parler.
Moi, je crois, oui, parce qu'elle a été formée à ne pas rester à l'intérieur de son foyer, à s'occuper de ses enfants, comme c'était souvent le cas à cette époque, mais
oui.
à se aller, et ça c'est la fin du 18e avant la Révolution, parce que la Révolution a un petit peu remis les femmes à l'écart, mais à aller dans les salons, à parler, à donner son avis, et essayer de voir comment les choses pouvaient évoluer. Et c'est pas parce qu'elle était une femme qu'elle n'en avait pas le droit, au contraire, au moment qu'elle était mariée et qu'elle pouvait aller dans ses salons, c'était tout à fait autorisé, et même les salons ont fleuri à cette époque, juste avant et dans les deux premières années de la Révolution.
Alors ce qui est quand même étonnant aussi quand on lit le parcours de Robespierre, alors tout a été écrit sur la Révolution,
oui.
Robespierre,
tout est plus.
Et moi je trouve que vous retranscrivez les choses de manière, j'ai envie de dire, logique, carré, voilà, c'est pas à pas, on s'y retrouve plus, vous voyez, on sent mieux le personnage de Robespierre. Alors après, il peut créer des antagonismes, de la haine, de tout ce que l'on veut, mais vous reconstituez bien le personnage, on sent que vous l'avez bien étudié. Il n'y a pas chez vous de, comment dirais-je, vous restez neutre, vous expliquez simplement le personnage et l'époque au travers du personnage.
J'ai essayé de ne pas être de parti pris,
voilà.
Et de prendre ce personnage comme si je ne l'avais jamais connu, et avec les derniers ouvrages qui sont parus sur Robespierre, qui sont très intéressants, notamment ceux de Monsieur Hervé Leouers, du professeur Hervé Leouers, et ceux de Jean-Clément Martin, on apprend que à découvrir la personne derrière la personnalité. Et ça, c'est très intéressant parce que on voit comment il progresse, comment il souffre, comment c'est un homme. Donc, on se rend compte que on peut pas toujours l'accabler. Et notamment, c'est un homme qui est avec d'autres à ce moment-là au pouvoir, et les décisions ne se prennent pas seules. Donc, faire de Robespierre le coupable, le monstre, l'homme seul pendant la Révolution, c'est une erreur. Donc, moi, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure en l'étudiant, et j'ai appris moi-même à... J'ai eu du mal à trouver mon Robespierre, mais j'ai appris à le chercher et à trouver des indications qui pourront peut-être par la suite aider les gens à continuer à travailler sur Robespierre, à faire un livre de plus.
Mais voilà. Si vous voulez, moi ça m'a apporté, alors j'espère que ce sera le cas pour les auditrices et auditeurs et les lecteurs, un regard nouveau, c'est-à-dire au-delà bien évidemment de ce qu'il a pu faire. Au départ, ça a été, on le disait, il est né à Arras, il a fait des études d'avocat, c'est Maximilien de Robespierre, hein, il faut bien le préciser.
Oui,
c'est important dans l'époque, hein, bien évidemment, puisqu'on pourchassait la monarchie. Et finalement, c'est, à la base, c'est un homme qui vient d'un milieu favorisé et qui pourtant va tomber un petit peu dans l'excès de la terreur humaine, dirais-je. C'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est intéressant aussi chez lui.
C'est intéressant, mais je crois que comme beaucoup d'hommes politiques de haut vol, il s'est incarné, il a pensé que la France s'incarnait en lui, et qu'il avait le devoir moral et le devoir vis-à-vis patriotique de continuer et d'aller jusqu'au bout des excès de terreur qui permettrait d'installer une société plus juste, vertueuse, qui correspond à la France. Et cette incarnation-là, c'est très français, on peut penser à De Gaulle, par exemple, d'une certaine manière.
C'est vrai.
C'est très français. Et alors, à un certain moment, il y a pouvoir et abus de pouvoir. Et là, ça devient très délicat. Surtout quand on n'est pas toujours très bien entouré.
C'est vrai, tout à fait.
Voilà.
Eh bien, écoutez, j'espère que ce qui ne va pas être un abus de pouvoir, c'est la petite pause musicale que nous allons faire. Et nous nous retrouvons dans un instant.
Madame Veto avait promis,
Madame Veto avait promis,
de faire égorger tout Paris,
de faire égorger tout Paris,
mais sans coup à manquer, grâce à nos canonniers.
Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon.
Monsieur Veto avait promis,
Monsieur Veto avait promis,
d'être fidèle à son pays,
d'être fidèle à son pays.
Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier.
Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon.
Antoinette avait résolu,
Antoinette avait résolu,
de nous faire tomber sur le cul,
de nous faire tomber sur le cul.
Mais sans coup à manquer, elle a le nez cassé.
Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Le patriote a pour ami,
le patriote a pour ami,
tous les bonnes gens du pays,
tous les bonnes gens du pays.
Mais ils se soutiendront tous au son du canon.
Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Amis, restons toujours unis,
amis, restons toujours unis.
Ne craignons pas nos ennemis,
ne craignons pas nos ennemis.
S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter.
Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Oui, nous nous souviendrons toujours,
oui, nous nous souviendrons toujours,
des sans-culottes des faubourgs,
des sans-culottes des faubourgs.
À leur santé buvant, vive ces francs-lurants.
Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Thérèse Charles Valin pour son ouvrage Thérésia Thalien, Maximilien de Robespierre aux éditions de la Biskine. Alors, on parlait donc bien sûr de nos deux personnages et tout en lisant votre livre, j'essaie de me les représenter et je me disais mais finalement, ils avaient des similitudes mais en même temps une vision quand même de la vie, du monde, des choses de l'époque très différent et ils ont dû se détester ces deux-là.
Mais c'est-à-dire que je me demande, c'est une question qui est intéressante à poser. Je crois d'abord que, bien que je fais une vie parallèle, des vies parallèles entre ces deux personnes, ils ne sont à peu près jamais rencontrés. Peut-être une fois
durant
cette période, à un dîner ou à la convention.
On peut le supposer, voilà.
On peut le supposer, mais nous n'en avons aucune certitude. Donc, à partir d'un certain moment... Je pense que Thérésia, quand elle est menacée dans sa vie et qu'elle est emprisonnée, a dû haïr Robespierre profondément, ça c'est certain. Robespierre, je ne sais pas si c'était au niveau de la haine, je pense que les femmes, d'une manière générale, et les femmes un peu généreuses de leur personne, ils trouvaient que c'était, enfin, ça n'allait pas avec le sens qu'il avait de la vertu pour une femme. Et ensuite, ce qui a motivé ça... sa décision concernant l'arrestation de Thérésia, c'est je ne crois pas que ce soit de la haine ou quoi que ce soit, c'est d'abord le fait de vouloir faire tomber Thalien qui commençait à motiver tout le monde pour la chute de Robespierre, mais c'est surtout le fait que Thérésia venait d'une famille espagnole et elle était la fille d'un
banquier espagnol,
très connu en Espagne, qui était François Cabarrus, et ce François Cabarrus, qui dirigeait la banque, la banque d'Espagne, la banque Saint-Charles d'Espagne, avait fait passer, à un moment donné, de l'argent pour qu'on ne condamne pas Louis XVI, ou pour qu'on le fasse sortir de France, qu'on achète certaines consciences. Donc, tout un milieu qu'on appelait le syndicat espagnol était lié à cette histoire de Cabarrus, et on retrouvera parmi eux le poète André Chénier, qui va mourir le 7 Thermidor, juste avant qu'on libère les gens. Donc on trouve ce syndicat espagnol, et ça inquiétait terriblement Robespierre, parce que d'abord il voulait absolument que Louis XVI soit condamné.
Soit condamné et exécuté.
Sinon, voilà, c'était la fondation de la République, et ensuite qu'on poursuive ceux qui considéraient comme des traîtres à la patrie, qui avaient... négocier ou essayer de séduire Danton ou d'autres députés et fait passer de l'argent pour qu'on libère Louis XVI. Donc ces papiers qui étaient détenus par ce syndicat espagnol, il y a une partie qui était dans la correspondance entre Thérésia et son père et il voulait qu'on saisisse ces documents et qu'on la condamne en fonction de cette appartenance au syndicat espagnol. Donc il y a trois raisons. Une femme trop généreuse de son corps, Thalien qui était devenu un personnage très dangereux, et puis le syndicat espagnol. Donc, il a signé cet acte d'arrestation et c'est un, dit-on, un des rares qu'il ait signé et avec une grande décision, mais je ne crois pas que ce soit de la haine. C'est simplement, il poursuit ça.
Il poursuit ses idées politiques. Alors oui, elle est arrêtée parce qu'elle est accusée effectivement d'avoir écrit certaines missives, certains courriers, certaines lettres.
Voilà, ouais. D'avoir une correspondance avec son père
avec
et avec
son père.
Ce qui est lié à la libération à ce moment-là possible de Louis XVI,
oui.
Et même au fait de faire échapper le jeune fils de Louis XVI, qu'on a dénommé Louis XVII, et de le faire sortir de prison pour qu'un jour, peut-être,
il puisse régner, tout à fait, oui. Alors, au-delà ensuite des agissements de Robespierre, entre le moment où il est à Arras, il devient avocat, il arrive, etc., il va devenir député des Jacobins et de la Terreur, je me suis dit, mais il n'avait pas conscience du destin, de ce qu'il voulait faire réellement. Il avait des idéaux, il avait une ligne de conduite, il savait qu'il voulait cette république, mais je me suis dit, au sens propre des choses, il ne savait pas comment allaient se passer les choses. Il n'avait pas dans l'idée en disant, ben voilà, je vais faire de guillotiner tous mes amis et je veux tuer Louis XVI. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un idéal sans penser qu'un jour ou l'autre, il serait amené à l'un des acteurs principaux de la Terreur.
Oui, je crois que, bon, bien sûr, on ne peut pas toujours dire que ce sont les hommes qui font l'histoire. Je crois que la Révolution a été un mouvement qui a été extrêmement fort et qui est allé à certains moments en avant, puis d'autres en arrière, et puis qui s'est porté à des extrêmes. Et Robespierre a suivi, avec ses idées, bien sûr, de base, mais a suivi le mouvement général. Et ce qu'il a voulu, à partir d'un certain moment, c'est incarner le peuple de France, le peuple compris, c'est-à-dire toute la nation,
bien
le peuple, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas de droit jusque-là, mais les autres, les bourgeois, etc. Et il voulait les mener à la réalisation de ses idées, mais il était lui-même victime des mouvements de la Révolution. À certains moments, d'ailleurs, dès 1792, les Girondins l'accusent de vouloir être Dieu, de vouloir tout savoir, de vouloir tout diriger, c'est pas nouveau, parce que actuellement, il y a une théorie comme quoi les Thermidoriens, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir après Thermidor, ont inventé un Robespierre méchant, violent, terroriste, etc., et que c'est une sorte de conspiration.
Sanguinaire.
L'était-il vraiment? Il paraît qu'il avait très peur du sang.
Il paraît.
Et je pense pas qu'il aimait tuer les gens du tout.
C'était dans le mouvement.
Intellectuel.
C'était dans le mouvement.
C'était intellectuel et je crois pas qu'il y prenait du plaisir.
Je
ne pense pas. Et donc, il s'est soumis au mouvement de la Révolution. Il a essayé de la rediriger quand il pouvait. Parfois seul, parfois avec ses amis politiques. Mais je ne pense pas qu'il y tirait un plaisir quelconque. Et qu'il il avait une volonté quelconque de tuerie ou de massacre, etc. Mais la Terreur, il l'a accepté. Il l'a accepté, c'est ça, on peut pas enlever ça. Il l'a accepté à certains moments, quand il y a eu la Vendée, ou quand il y a eu les charrettes des religieuses de Compiègne, quand il a renvoyé Danton, des Moulins, etc. à la guillotine. Il n'a pas dit « j'ai eu tort ». Il a reconnu que c'était nécessaire.
Voilà. C'était l'époque qui le voulait, tout simplement.
C'était l'époque qui le voulait et surtout les objectifs qui s'étaient fixés.
Tout à fait.
Pour la France.
Alors, Oui.
Oui.
Je vous écoute.
Non, c'est tout.
D'accord.
C'est tout ce que je
D'accord.
Dire.
Alors, on disait hors antenne que les mentalités ont changé et que finalement la Révolution, c'est hier, c'est une époque que l'on sent finalement proche de nous parce qu'on en connaît plus ou moins les actrices et les acteurs. Néanmoins, c'est une époque, j'ai envie de dire, moderne dans l'esprit, et aujourd'hui on peut retranscrire certaines choses parce que certes les mentalités changent, mais les hommes, les réactions, le regard sur le monde, sur l'autre, sur les différences, l'acrimonie pour beaucoup de choses, elle est toujours présente et on la retrouve dans cette Révolution française. Je trouve que vraiment on peut faire un parallèle entre notre époque et il y a 250 ans.
Tout à fait, il y a beaucoup de points communs, il y a des points de divergence aussi, mais il y a des points communs, par exemple l'importance France des rumeurs, oui. À l'époque de la Révolution française.
C'est,
de notre temps, c'est exactement la même chose. Mm-hmm. On vit sur la rumeur. L'importance de la vie quotidienne, c'est-à-dire si on a suffisamment mangé ou non, c'est très important.
Oui.
L'influence des femmes, ou non, mm-hmm. C'est une revendication continuelle depuis.
Oui.
Par contre, ce qui diffère, moi, à mon avis, de la Révolution française de notre époque, c'est que ces hommes, surtout ces hommes, de la Révolution française, vivaient à l'antique. Mmh. Ils se référaient, ils avaient été élevés dans les lycées, où on leur apprenait Cicéron,
oui,
les Grecs, les Romains, etc.
L'Empire romain.
Ils voulaient vivre comme au temps de Rome, mmh. dans une sorte de gloire, mmh. et de vertu, ils prenaient des positions, si vous voulez, mmh. et des postures. David, dans ses tableaux, l'a admirablement réalisé,
oui.
Et ils se sentaient surélevés par rapport à leur époque. Je ne crois pas que de nos jours, nous voulions prendre des positions et des postures de ce style. Je ne pense pas. Je pense que c'est dépassé, ça.
C'est dépassé, mais alors, est-ce que on pourrait dire que finalement, leurs idéaux, leur posture étaient peut-être plus riches qu'aujourd'hui?
Elles étaient certainement plus riches puisqu'elles étaient alimentées à des études de ce qui s'était passé dans l'Antiquité,
mmh.
Elles étaient aussi alimentées par les discours et les écrits des Romains et des Grecs, mmh. qui ont énormément travaillé sur la politique.
Mmh.
Maintenant, c'est passé tout à fait, on n'y pense plus, mais ils en étaient nourris.
Tout à fait.
Donc ça leur donnait une puissance de discussion, une puissance d'action que nous n'avons plus maintenant.
Alors est-ce que en Thérèse Charles Vallin vit quelque part Thérésia Thalien?
Oh, quelle question difficile. Bien, je pense que dans nos gènes nous héritons de nos parents d'une,
oui.
certaine manière, même si c'est très loin,
oui.
et je pense que moi, ma position par rapport à la politique, à la société,
oui.
et même au problème du rôle des femmes,
oui.
Oui, je pense que je me rapproche assez de mon aïeul.
Oui.
C'est peut-être quelque chose qui vit en moi.
C'est ce qu'on peut appeler l'épigénétique, finalement.
Qui sait? Oui, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Alors, moi, je voudrais savoir comment vous avez travaillé ces deux personnages pour votre ouvrage. Comment s'est passée l'écriture, la pensée, la démarche?
Bien, j'ai d'abord beaucoup réfléchi au sujet, savoir s'il valait la peine d'être fait ou s'il n'allait pas être un livre de plus sur Robespierre et un livre de plus sur Thérésia, où il y a eu déjà 30 ou 40 biographies,
oui.
qui ont été écrites sur elle,
oui.
mais j'ai repris les documents et les archives familiales, je les ai relus. J'ai relu tout ce qui concernait Cabarrus, c'est-à-dire le père,
oui,
de Thérésia, pour savoir,
oui.
comment elle avait évolué et comment elle avait été formée par son père.
Mm-hmm.
Et puis j'ai reconstruit mon personnage de Robespierre à partir de tout ce que je lisais, depuis le plus ancien et enfin, c'est les théories les plus,
oui.
Désagréables à son sujet jusqu'aux, mmh. aux éloges, et puis les découvertes récentes que les historiens nous ont données, qui sont vraiment passionnantes, avec recours à de nouvelles archives, là aussi. Et donc, après m'être imbibé de mes personnages, je,
oui.
me suis mis à la rédaction et j'ai essayé de revivre la Révolution française avec eux.
Oui. Voilà. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un document. À aucun moment, vous n'avez essayé de les faire parler, de les faire rencontrer, parce qu'on le disait, on peut supposer qu'ils se soient peut-être croisés.
Oui,
voilà.
Oui. On a beaucoup raconté
de
choses à ce sujet, mais
oui.
qui ne sont pas fondées du tout. Mmh. Oui.
Alors, bien sûr, on sait qu'ils se connaissaient, dans le sens où ils connaissaient l'existence de l'autre. Ça, c'est une certitude.
Voilà.
Ça,
oui.
c'était une certitude. Mais quant à se rencontrer, c'était quand même deux mondes différents, deux oppositions, de toute façon.
Oui. Et puis, vers la fin de sa vie, Robespierre vivait dans un cercle extrêmement restreint.
Oui.
Il vivait chez Maurice Duplay.
Maurice Duplay,
cet homme qu'il avait hébergé. Et il avait un tout petit nombre d'amis. Il ne se déplaçait plus. Il ne se déplaçait plus hors Paris. Il faisait son trajet à l'Assemblée nationale et retour.
Oui.
Et c'était à peu près, au Jacobin, et c'était
oui.
à peu près tout.
Mmh.
Donc, plus de vie mondaine, plus de vie sociale qu'il avait eue autrefois.
Mmh.
Et peut-être, au tout début, lors du premier mariage de Thérésia, qui avait épousé le marquis de Fontenay, ils se sont rencontrés parce que Fontenay appartenait aussi aux Jacobins,
oui.
Et elle recevait beaucoup dans ses salons, aussi bien à Paris que à Fontenay-les-Roses, où ils avaient un petit château. Et on dit que Robespierre a assisté à l'un de ses repas, et bon, donc il y a dû avoir une rencontre,
oui,
à un moment donné, mais tellement faible, tellement solitaire, que je ne sais pas.
Oui. En tout cas, c'est un livre fort intéressant, Thérésia Tallien, Maximilien de Robespierre, aux éditions de La Bisquine. Rapidement, quels sont vos projets prochains d'écriture? Vous en avez d'autres?
Oui, j'ai en cours, encore une vie parallèle, une histoire de vie parallèle, et c'est les deux frères Chénier, André et Marie-Joseph Chénier, qui ont été l'un pro-révolutionnaire et l'autre opposé à la Révolution. Et j'ai beaucoup travaillé sur André Chénier et j'ai vu la personnalité de son frère aussi apparaître, et je pense que mon prochain livre va être à leur sujet.
Voilà. Eh bien, écoutez, nous serons heureux à ces deux ailes, délivrez-vous pour ce nouvel ouvrage. Voilà. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Thérésia Tallien, Maximilien de Robespierre, aux éditions de La Bisquine. C'était un vrai plaisir de vous recevoir.
Excusez-moi, c'est Thérésia, pas Tallien, parce qu'elle n'est pas encore Madame Tallien.
Oui.
C'est Thérésia Robespierre.
Thérésia Robespierre, voilà, c'est vrai.
Voilà.
Mais bon, c'est vrai qu'elle a épousé Tallien après, mais au départ, c'est Thérésia et Maximilien et Robespierre.
C'est sa personnalité qui est très différente après. Oui,
tout à fait.
Voilà.
Donc, aux éditions de La Bisquine. Merci infiniment, Thérèse Charles Valin. Et puis, je vous dis à une prochaine fois.
Je vous remercie et à bientôt, j'espère.
Merci beaucoup. Au revoir.